Vous écoutez France Musique.
Vous êtes sur France Musique. Il est minuit. Es ist Mitternacht. À l'improviste. Anne Montaron.
Dans À l'improviste aujourd'hui, la musique d'un duo complice qui a réuni le 23 novembre dernier à la radio le clarinettiste canadien François Houle et le pianiste Benoît Delbecq.
On s'est rencontrés par l'intermédiaire de Joëlle Léandre, parce que la première fois que je suis allé jouer à Vancouver, elle m'a dit « Oh, tu vas jouer à Vancouver, tu vas rencontrer François Houle ». Et j'étais avec les Recyclers, donc avec Noël Achoté et Steve Aguayes. Et donc on s'est rencontrés en fait dans un pique-nique chez Tony Wilson, un après-midi, et puis on s'est rendu compte qu'en fait on avait une sorte de façon de décrire la musique qu'on voulait faire qui était équivalente, similaire, enfin beaucoup de choses, grande connaissance de la musique contemporaine chez François, en tant qu'interprète d'ailleurs, c'est un magnifique interprète aussi de musique écrite, et puis voilà, et finalement on a fait une heure d'improvisation interrompue par une femme de ménage à l'université de Vancouver. On était en train d'enregistrer, on s'est fait
bien par l'aspirateur. Elle n'a pas posé son balai.
Et c'est ce qu'on a appelé une postcard qui est dans le premier disque des Recyclers, non, dans le deuxième. Et en fait, l'année d'après, François est revenu à Paris travailler avec Joël, je crois.
Oui.
Et je lui ai dit, oh, ben, on se verra une journée à la maison, viens, etc. Puis en fait, j'ai loué un studio. Donc en fait, on a fait pratiquement tout le premier disque comme ça. Donc ça, c'est en 97, et puis après, on a continué. Donc on en est au troisième maintenant.
À ce premier CD intitulé Nankali que Benoît Delbecq vient d'évoquer, deux autres ont succédé, d'abord Dice Throne, puis plus récemment Because She Hoped, édité chez Songlines et dans lequel ils s'amusent à faire leur miel d'une composition de Duke Ellington, The Mystery Song, et d'une composition de Steve Lacy, Cliché. Rien de tel lors de leur retrouvaille à la radio, l'improvisation qui s'est déroulée aux oreilles du public venu les écouter était à la fois neuve et familière, neuve parce qu'impromptue, et familière car elle dévoile des bouts d'univers qui appartiennent déjà à l'histoire de ce duo depuis qu'il s'est constitué.
Thank you.
L'un prépare son instrument, l'autre le démultiplie. Le résultat est presque le même. Benoît Delbecq a placé dans le piano de notre studio à Radio France quantité d'objets dont il a le secret. Il peut les déplacer quand il le souhaite ou quand l'improvisation le réclame. François Houle, de son côté, disposait de suffisamment de clarinettes pour varier les éclairages. Et s'il n'en avait apporté qu'une seule, pour ses retrouvailles avec Benoît Delbecq, la diversité de timbres aurait de toute façon été au rendez-vous, car s'il est un duo qui joue et sur le miroitement des couleurs, des sons, et sur le miroitement des temps et de la pulsation, c'est bien celui-ci. Alors je vous l'accorde, l'expression est peut-être un peu barbare, mais pourquoi n'y aurait-il pas d'effet de diffraction ou de miroitement, là aussi, dans les polyrythmies déployées au piano par Benoît Delbecq ? Tout à l'heure, Benoît Delbecq nous a raconté comment le duo s'était constitué. Il y a toujours une bonne part de hasard dans les rencontres de musiciens, et après tout, les chemins de ces deux musiciens auraient pu ne pas converger. Benoît Delbecq, qui a fait ses classes dans l'univers du jazz très jeune aux côtés d'Alan Silva, n'est pas engagé comme l'est François Houle au Canada dans l'interprétation de la musique contemporaine. Ce dernier a d'ailleurs rencontré le jazz et l'improvisation beaucoup plus tard que Benoît Delbecq. Un musicien de jazz néanmoins les réunit, le saxophoniste Steve Lacy, qui d'ailleurs appréciait beaucoup la musique de leur duo. Un duo qui le lui a bien rendu en improvisant sur l'un de ses thèmes. Mais en réalité, François Houle doit beaucoup plus à Steve Lacy qu'un thème d'inspiration.
Ben Steve Lacy, qu'est-ce qu'il m'a apporté? Il m'a tout apporté parce que je ne connaissais pas du tout la scène de la musique improvisée, du jazz contemporain. Je connaissais le jazz un peu plus traditionnel, le jazz américain. Quand je m'y suis intéressé, j'avais déjà toute une formation classique.
Oui.
J'ai habité même à Paris pendant un an. Je faisais des études d'organologie. Et tout à fait par hasard, à la FNAC, j'ai trouvé un disque de Steve Lacy. C'était le solo, c'était Steve Lacy qui jouait les thèmes de Monk.
Ah.
Hocus Pocus, je crois.
Hocus Pocus.
Mm. C'est ça, le premier qu'il avait fait sur Soul Note, je crois, ou Black Saint.
Black Saint.
Et ça m'avait marqué. Et c'était là mon point de départ. Et j'avais toujours l'intention d'un jour rencontrer cet homme qui m'était très énigmatique, comme ça. J'entendais des histoires de tout le monde. Ah oui, Steve Lacy, il a fait ci, il a fait ça. Et quand je me suis retrouvé à Vancouver par après, après une année de travail à Banff, et Ken Pickering, le directeur artistique du Festival de Vancouver, avait invité Steve Lacy à faire un concert avec son sextet, avec Steve Potts et Jean-Jacques Avenel. Et moi, à cette époque, j'avais un octuor, Et il m'a programmé en première partie du sextet de Steve Lacy. J'étais comme ça, très nerveux, très excité. Et ce fut une soirée, en fait, qui m'a complètement bouleversé, qui a changé ma vie, finalement, parce que Steve, dans sa grande générosité, plutôt que de me donner des conseils ou de me traiter un peu comme un bleu, m'a accepté dans la fraternité des improvisateurs. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué à le rencontrer, à travailler avec, à lui demander des questions. Et il m'a beaucoup aidé dans ce sens-là.
Tu t'étais mis au soprano, en fait.
Oui, là,
c'est Steve qui t'a dit, mais qu'est-ce que... Non, c'est Evan Parker qui t'a dit.
C'est Evan Parker qui m'avait amené au soprano plus que Steve Lacy. Oui. En fait, j'ai une drôle d'histoire avant de rentrer dans Evan Parker. C'est que Steve Lacy, j'allais chez lui sur rue Faubourg du Temple. Et à l'époque, je jouais du soprano. Et j'avais travaillé un de ses thèmes au soprano. Mm-hmm. Et Steve m'a demandé, écoute, tu as ta clarinette avec toi? Et j'ai dit, ben oui. Il dit, ben pourquoi tu n'essaies pas le thème à la clarinette pour voir? Ouais. Alors, je joue le thème à la clarinette et il me regarde avec un grand sourire. Et il me dit, tu sais, François, que jouer plus d'un instrument, c'est comme la polygamie. Alors, moi, je pensais qu'il se foutait un peu de ma gueule. Je suis rentré chez moi à Vancouver et j'ai réfléchi un peu à ça. Mm-hmm. Et j'ai vendu mon soprano et je me suis lancé à 100% à la clarinette, qui était d'ailleurs mon instrument de prédilection. Dès l'âge de 7 ans, je jouais de la clarinette. Donc, à sa façon, il m'a dit, écoute, tu es clarinettiste, ne perds pas ton temps avec ce truc de soprano. Et c'est, ma voix, c'était vraiment la clarinette.
Autre figure marquante de la free music à avoir beaucoup influencé François Hull, le saxophoniste Evan Parker, qui a rejoint son duo avec Benoît Delbecq sur un album intitulé « La lumière des pierres ».
En même temps que je travaillais avec Steve Lacy, j'allais visiter Evan Parker et on travaillait dans sa cuisine. On faisait des duos ensemble au soprano. Et j'étais comme dans un cul-de-sac avec le soprano, en essayant d'appliquer tout le travail ou les méthodes de permutation, de polyvitesse d'Evan. Et j'avais une très, très grande crainte, d'ailleurs bien fondée, que si je faisais ça, ben, les gens me compareraient toujours au maître. Et il n'y avait pas vraiment d'issue pour me retrouver ou de faire évoluer ce parcours dans une autre direction. Alors, j'ai tout simplement appliquer ces principes à la clarinette. Et comme la clarinette, c'est un instrument qui est complètement différent. Premièrement, il est, physiquement, c'est cylindrique plutôt que conique. Et donc, les qualités harmoniques sont complètement différentes. Et en appliquant les mêmes procédures de doigté et de travail, on arrive à quelque chose de complètement différent. Et j'en fais toujours encore, d'ailleurs, on l'a entendu ce soir. On reconnaît les échos d'Evan Parker, oui. Mais c'est vraiment, à la clarinette, ça ouvre des champs sonores, des univers que je n'ai jamais entendus, en tout cas moi-même, à la clarinette. Mm-hmm. Et d'ailleurs, plusieurs clarinettistes viennent me voir pour me demander comment je fais ça. Alors, j'écris un livre en ce moment pour expliquer ça. Oui. Donc, ces deux grands personnages ont vraiment m'ont donné la permission de forger, si vous voulez, ou de paver mon propre chemin dans ces musiques créatives.
Benoît, lui, il a trouvé le chemin assez vite pour avoir son propre langage en mettant des choses dans le piano. Alors, même si tu n'étais pas le seul à le faire à l'époque, quand même, il n'y en avait pas tant que ça à l'époque. Je te vieillis pas là,
mais... de Uli Scherer, le pianiste de Bienart, chez ECM en 81. Et puis, il y avait surtout François Tuss, qui est dans la salle.
Qui est dans la salle, qui est là.
Mais que j'ai découvert après avoir... Enfin, son travail au piano préparé. Donc, c'est un disque chant du monde qui s'appelle Le piano préparé. Oui. C'est Jean Rochard qui me l'a fait connaître il y a pas mal d'années. Mais disons, j'ai un peu... Enfant, je faisais ça, un petit marteau dans les cordes du piano... et en fait, la vraie raison pour laquelle je me suis lancé là-dedans, c'était pour mieux jouer et comprendre la musique de Ligeti, la musique pour piano. Donc c'est un peu paradoxal, puisque j'étais étudiant en piano classique, je savais que c'est pas ça que j'allais faire, mais voilà. Donc j'ai commencé à mettre des bouts de gomme plus sérieusement, des bouts de bois pour mieux comprendre les accents. Et puis ça m'a donné beaucoup de ça m'a ouvert des portes énormes. Après, un ami de la famille, je connaissais pas encore la musique de Cage pour Pierre Préparé, donc j'ai découvert ça, je fais waouh, ouais. Puis voilà, quelques années plus tard, je découvre François. Mais c'est vrai que on est assez peu finalement à le faire d'une façon j'ai envie de dire autre que juste purement anecdotique au niveau du timbre.
Oui, c'est ça.
C'est associé chez moi à une recherche sur la polyrythmie, la polymétrie.
Thank you.
Improvisation de François Houle et Benoît Delbecq offerte au public d'À l'improviste le 23 novembre dernier. Une équipe vidéo filmait ce concert. Si la caméra ne va pas jusque dans les entrailles du piano, elle nous montre en revanche les instruments apportés ce jour-là par François Houle et sa façon d'en tirer des sonorités parfois étonnantes. La lutherie, on le sait, évolue toujours et souvent les musiciens improvisateurs, les performeurs, donnent de bonnes impulsions justement à l'évolution des instruments dans la mesure où ils cherchent sans relâche de nouveaux sons. C'est ce qui les fait rejoindre par moments, d'ailleurs, pour notre plus grand plaisir, l'esprit curieux de certains compositeurs. François Houle a joué par exemple ce soir-là d'une clarinette que je n'avais encore jamais vue.
Ben, ces clarinettes-là, elles sont fabriquées à Vancouver par un facteur d'instruments qui a commencé à fabriquer des clarinettes il y a environ une dizaine d'années et qui maintenant est reconnu internationalement comme un des grands fabricant de clarinettes qui s'appelle Maury Bakun. Et ces instruments-là, en fait, c'est des prototypes qui sont faits en bois exotique, du cocobolo brésilien, dont le pavillon et les barils. Et le reste de l'instrument, c'est toujours le bois traditionnel pour les clarinettes. À l'époque, c'était l'ébène, maintenant, c'est la grenadille. Et tout le clétage a été fait à partir de mes mains. Donc, c'est des instruments qui ont été conçus et développés pour moi spécifiquement.
Le public d'À l'improviste n'est pas resté totalement muet après ce concert du duo. Le micro aime se promener dans les rangées de fauteuils du 106 pendant ces moments d'échange et de fines oreilles avaient remarqué par exemple que la musique de François Houle se baladait parfois dans des contrées lointaines. François Houle nous dit pourquoi sa clarinette sonne parfois comme une clarinette d'Europe de l'Est, parfois comme un instrument oriental.
J'ai travaillé pendant au moins une dizaine d'années avec un groupe de musique persane.
Ça ressemble aux ourna aussi un peu, hein, ce que tu as fait tout à l'heure.
Oui, et au lieu de jouer de la clarinette iranienne qui s'appelle le garané, J'ai préféré rester sur mes clarinettes pour éviter le truc de polygamie, justement. mais d'adapter ses couleurs, ses tonalités, les microtonalités de ses gammes, des modes de jeu du radif iranien à ces instruments-là. J'ai travaillé avec un joueur de tar iranien qui s'appelle Amir Kouchkani, qui est un magnifique musicien. On a collaboré pendant des années ensemble. Et d'ailleurs, il redéménage à Vancouver. Alors, on va renouer connaissance et se remettre à travailler ensemble dans les mois qui suivent. Et il faut dire aussi que j'ai beaucoup écouté les musiques du monde. Benoît m'a introduit à beaucoup de musiques africaines, de musiques pygmées africaines, la kora. Et moi, j'ai découvert les chants Aka, les tambours du Burundi. Et d'ailleurs, au Burundi, ils jouent un instrument en bois, c'est un log drum qu'ils appellent, je ne sais pas c'est quoi en français.
L'okolé.
C'est de là que je me suis inspiré pour ce genre de son que je fais.
Oui.
Ça vient. Donc, il y a beaucoup de mes jeux, par exemple la flûte, qui est inspirée par le shakuhachi japonais. Donc, plutôt que de jouer une centaine d'instruments différents, j'essaie d'imiter les instruments de la musique du monde avec la clarinette. Bon, il y a des limitations, bien sûr, mais ça ouvre mon champ d'action plutôt que de jouer la clarinette de façon traditionnelle, qui est un instrument de... En fait, à prime abord, un instrument mélodique. Je préfère le voir comme, comme on dit en américain, un interface. C'est un médium entre moi et toutes les musiques qui existent, quoi. Thank you.
En évoquant la musique du duo François Houle et Benoît Delbecq, j'ai parlé tout à l'heure de miroitement. Elle a en effet souvent quelque chose de ce scintillement qu'ont les choses de la nuit. De l'esprit du nocturne, elle a parfois aussi le velouté, l'épaisseur du noir ou au contraire les contrastes du clair-obscur. C'est le cas de cette dernière miniature jouée pour le public de la radio le 23 novembre lors de ses retrouvailles du duo un an après leur dernier concert. Et comme ce soir-là, le percussionniste Ingar Tsar était venu jouer une première partie en solitaire, la tentation était très forte pour le duo d'inviter le musicien norvégien à les rejoindre. Benoît Delbecq ne s'est d'ailleurs pas vraiment fait violence, il connaît la musique d'Ingar Tsar et apprécie particulièrement le trio Mural qu'il forme avec Kim Mir et Jim Denley. C'est donc sur la musique du trio Houle Delbecq Tsar, un trio totalement inédit, que se referme cette émission. Un grand merci pour leur collaboration à Bruno Mourlan, Jean-Baptiste Etcheparebord, Philippe Thibault, Françoise Cordet, Olivier Dupré et Soisic Noël.
Thank you.
Il est 1h du matin. France Musique vous offre maintenant ses programmes de nuit.